Bonjour à toutes et à tous, et bonne année, encore une fois, 2025. On croit que ce n'est pas des mots artificiels quand ils sont dits avec le cœur vraiment, et quand on peut se bénir les uns les autres au nom de Jésus, bénir cette année qui va démarrer, enfin qui a déjà démarré. Ah, merci. Hop, voilà. Donc, et merci Seigneur. Écoutez, on va pas mal parler de prière dans ces prochains temps, comme Olivier vient de vous le dire. La semaine prochaine sera la semaine de jeûne et prière. On va aussi parler de prière aujourd'hui. Olivier nous dit de nous préparer. Ben, on va se préparer en parlant déjà de prière. Et prions. C'est la meilleure des préparations. Et ben, Seigneur, merci. Merci pour cette communion avec toi. Seigneur, c'est le but de notre vie, d'être en communion avec toi, individuellement, mais aussi ensemble. Et Seigneur, que nous grandissions cette année dans notre communion avec toi. Seigneur, merci parce que toi, tu es toujours là, tu es toujours présent, tu es toujours pleinement présent. Mais nous avons besoin de grandir, Seigneur. Nous avons besoin de grandir dans cette soif, nous avons besoin de grandir dans cette discipline, nous avons besoin de grandir dans ce partage. Seigneur, dans l'écoute, Seigneur, merci. Merci parce que tu es là ce matin, Seigneur. Que chaque personne qui est dans cette pièce, que tous ceux qui n'ont pas pu venir, que toutes les familles, Seigneur, que l'on représente, soient vraiment bénies pour cette année 2025. En ton nom, Jésus. Amen. Waouh, c'est une joie de pouvoir être ensemble encore ce matin. Et j'avais à cœur de revenir dans un passage très connu de la Bible, mais ça fait toujours du bien de relire et de reméditer certains passages. C'est incroyable comme, alors qu'on ouvre la Bible, Dieu est là, Jésus est là, Jésus est la parole qui s'est fait chair. Donc quand on ouvre sa parole, il est là avec nous. Amen. Et du coup, ça va s'afficher normalement, mais on va le lire ensemble aussi. Donc, Matthieu 6, à partir du verset 5. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et ça me marquait alors que je réfléchissais à ça. Et c'est pas le cas dans cette version, mais je sais plus quelle version je vous ai affichée. Voilà, dans tous les siècles. Et en fait, ce mot siècle me marquait parce que je réalisais qu'on est en 2025, donc ça fait déjà un quart de siècle depuis l'an 2000. Et vous rappelez l'an 2000, je me rappelle très bien moi de cette soirée qu'on avait passée dans notre ancienne église où on était d'ailleurs à l'époque avec Olivier et d'autres. Et j'avais eu un accident de voiture ce jour-là, c'est pour ça aussi que je me rappelle très bien, je ne conduisais pas, et merci Seigneur, j'avais rien eu, mais c'était, vous rappelez, le bug de l'an 2000, tout ça, on se dit, oh là là, l'an 2000, qu'est-ce qui va se passer? Et ça y est, c'était déjà il y a 25 ans, incroyable. Donc merci Seigneur de voir sa présence pendant ces 25 années, et de voir ce que Dieu va faire encore aujourd'hui. Et en fait, quand Jésus, c'est vraiment, il était là 3 ans avec ses disciples qu'il avait choisis, Et pendant 3 ans, il leur a appris, il les a enseignés, mais il était avec eux. Rien que le fait d'être avec lui, dès que tu es avec Jésus, rien que le fait d'être avec lui, tu apprends en fait. Rien qu'en étant dans sa présence, en le voyant être, en le voyant faire. Et dans ce passage, il apprend à ses disciples qui lui demandent à prier. Et vous savez que c'est un des aspects de notre vision. On a vraiment envie d'être des gens qui apprennent. Notre vision, vous savez, c'est adorer Dieu. Ensuite, c'est apprendre à vivre comme Jésus. Et ensuite, aimer et servir notre ville. Que cet apprentissage qu'on fait puisse rayonner et puisse bénéficier à d'autres. Et je vois plein de gens debout. Sachez que normalement, il y a des chaises dans la petite salle au fond. Il y a quelques chaises là. Si ça serait dommage que certains... et mal au dos ou tout ça, n'hésitez pas à venir chercher des chaises, ou s'il y a des places peut-être à côté de vous, vous pouvez lever la main s'il y a une chaise libre à côté de vous. Ah, regardez, il y a plein de chaises, donc n'hésitez pas à venir vous asseoir. Bon, la plupart sont jeunes au fond là, ils sont en forme, mais voilà, je le dis quand même. Voilà. Et du coup, Jésus a choisi ses disciples qu'il a formés pendant 3 ans, et c'est toujours qu'est-ce que j'aime toujours réaliser, que c'est Jésus qui les choisit. Et comme je l'explique, il y a peut-être des choses que je vais dire aujourd'hui que vous avez déjà entendues, c'est pas grave, la répétition, c'est comme ça qu'on apprend, c'est important. Et Jésus, il dit dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et à l'époque, et un peu comme nous aujourd'hui, je pense, les gens cherchaient des maîtres inspirants, des rabbins inspirants pour devenir leurs disciples. Dans le judaïsme, voilà, ils voulaient vraiment apprendre. Et du coup, et nous, c'est un petit peu pareil aujourd'hui. Il y a YouTube, on se dit, oh, tiens, quel pasteur extraordinaire ou quelle église extraordinaire je vais pouvoir suivre aujourd'hui. Et c'est une bonne chose, mais Jésus leur dit non. D'habitude, oui, c'est vrai que ça se fait comme ça, dans la coutume, ça se fait comme ça, mais là, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, c'est lui qui est allé les chercher. Et je crois que si tu es là ce matin, c'est que Jésus t'a choisi. Jésus t'a pas choisi au hasard, il a choisi parce qu'il avait un plan pour ta vie, il avait des projets, ça a été rappelé ce matin, merveilleux pour ta vie, un avenir fait d'espérance. Et je raconte cette histoire où, quand on est arrivé à Montélimar, on est arrivé avec Olivier et Elodie ici, on a déménagé, et au début c'était pas évident au niveau professionnel, chacune de nos familles, voilà, on n'avait pas tout ce qu'il fallait, on n'avait pas assez pour vivre, mais on est venu ici par la foi. Et je nous revois avec Emmanuel un matin chez nous à choisir de louer le Seigneur et à chanter ce chant du collectif Ceux Ouverts. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, et il y avait des larmes qui venaient alors qu'on proclamait ces paroles. Et c'est le même jour ou le jour d'après, je vais dans un des labos de la ville pour, vous savez, il y a des petites annonces pour des remplacements infirmiers. Et là, je tombe sur un numéro de téléphone d'une collègue qui avait laissé et dont le numéro terminait par 29. 11. Et bien sûr, la référence du verset, c'est Jérémie 29, 11. Et tout de suite, ces deux chiffres m'ont sauté aux yeux. Et à l'époque, vraiment, ça a été quelque chose où Dieu nous disait, je suis là, je prends soin de vous. Et il a pourvu, bien sûr, de manière extraordinaire derrière pour nous, pour les Sarkis. Et il pourvoit pour chacun de nous. C'est grâce à lui que nous sommes debout encore aujourd'hui, que nous respirons, qu'il y a à manger dans notre assiette. Amen. Amen. Et vraiment, cette communion avec Dieu, dans la prière, c'est vraiment... Encore Dieu me révélait ça ces derniers temps où, ben oui, c'est vrai, la vie n'est pas toute rose. On passe aussi par des saisons difficiles, des saisons où on a l'impression de perdre le contrôle, des saisons où, même si on veut être des bons chrétiens et être fidèle à Dieu, eh ben on perd pied. Et combien la prière n'a pas besoin d'être quelque chose, comme dit Jésus, de calculer, de pour paraître, pour vraiment faire le bon chrétien, ou non, la prière c'est être avec Jésus. Et des fois la prière c'est aussi simple que de dire au secours Jésus, viens m'aider, j'en peux plus, je craque, fais quelque chose s'il te plaît, Seigneur, à l'aide. Et combien de fois ça peut être le cas dans nos vies, et ça, ben, c'est des prières que le Seigneur aime entendre. Pourquoi ? Parce que là, il y a un vrai cœur à cœur. Là, on n'est pas en train de jouer au chrétien, on n'est pas en train de faire le chrétien, on n'est pas en train de se forcer. Non, on est juste dans une relation simple et authentique avec notre Père. Et combien on a besoin de cette authenticité dans ce monde où paraître est tellement important, on le voit dans tellement d'aspects différents, paraître est tellement important. Qu'est-ce qu'on a besoin de pouvoir être vrai? Et c'est vrai qu'on le réalise souvent, les relations dans lesquelles on se sent le mieux, si vous pensez à vos amis, etc., c'est les gens avec qui tu peux être toi-même, où t'as pas obligé, t'es pas obligé de sentir que tu dois jouer un rôle, que si tu dis une chose, ça va être pris comme ci ou ça va être pris comme ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de relations chacun dans nos vies? Après, on a le travail, on a des choses où on a des postures à avoir. Il n'y a pas de souci. Mais chacun, on a besoin d'un cercle autour de nous, de gens. Avec qui on peut être 100% nous-mêmes. Et souvent, des fois, on en parle avec Olive, on se dit, mais oh, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir parler, et même si je dis quelque chose un peu de travers et tout, voilà, ça, je suis aimé tel que je suis. Et ça, je vous encourage vraiment dans cette authenticité avec les uns les autres, à avoir des gens comme ça autour de vous, mais aussi avec le Seigneur, de pouvoir être vrai et de pouvoir lui dire, Seigneur, viens m'aider. Et là, quand on fait ces prières-là, à chaque fois, il répond. À chaque fois, il vient par sa paix. À chaque fois, il vient par son réconfort, par son secours. Il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Amen. Et c'est mon expérience et je sais que c'est la vôtre aussi. Et si tu te sens aujourd'hui, si toi, tu es dans une période dure, une période difficile de ta vie où tu as l'impression de perdre pied, où tu as l'impression que toutes les circonstances sont orchestrées contre toi, où tu as l'impression que peut-être même dans ton cerveau, tes pensées sont totalement hors de contrôle, que tu te sens accusé, que tu te sens négligé, que tu ne sais plus qui tu es, fais appel à Dieu, invoque-le et il vient par sa paix. Amen. Amen. Waouh. J'avais à cœur de vous lire ce passage d'1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas le Saint-Esprit de vous éclairer, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qui vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Merci Seigneur qui confirme par les chants qu'on chante, etc. Parce que oui, et voyez, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. C'est comme si tu veux être joyeux. Eh bien, prie sans cesse. C'est comme si la prière, c'est plus que quelque chose qu'on fait. C'est comme respirer, en fait. C'est cette communion perpétuelle avec Dieu, où on est en échange perpétuel avec lui, peu importe ce qu'on vit. Et ça nous permet d'être mieux. Et il est parlé là de l'esprit, de l'âme et du corps. Et c'est beau de voir que Dieu veut toucher ces trois dimensions de notre être. Et des fois, c'est spirituellement qu'on a besoin d'être rafraîchi. C'est qu'on a besoin d'enlever certains obstacles de nos vies pour que l'esprit puisse vraiment se manifester, couler. Des fois, c'est notre âme, c'est vraiment notre cœur, nos tripes, nos entrailles qui sont attaquées. Et on a besoin de prier pour que ce Dieu puisse faire le ménage dans tout ça, puisse vraiment ramener sa paix dans nos pensées, dans nos cœurs. Mais il y a aussi le corps qui est important et ça me tient vraiment à cœur de dire que ben, merci Seigneur pour le corps qu'il nous a donné et qu'il nous invite à en prendre soin et que dans cette en fait le fait de prier sans cesse, le fait d'être en communion sans cesse avec Dieu, et ben ça va nous conduire aussi à bien traiter ce corps qu'il nous a donné qui est un cadeau et du coup ces trois dimensions là sont vraiment importantes. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit notre Père. Et ça m'a toujours marqué de voir que il dit pas mon père. Jésus veut apprendre à ses disciples à prier. Il dit pas mon père. Il pourrait dire mon père. Ça serait très bien de dire mon père. Mais il dit pas mon père. Il dit notre Père. Et il y a vraiment quelque chose de, encore une fois, notre salut, oui, est individuel, mais il est aussi collectif. Et on le voit, quand on est isolé les uns les autres, quand on est dans la solitude, on est très très mal. En fait, Dieu nous a pas créés pour être seuls. Dieu nous a créés des êtres relationnels comme lui. Pour être en famille, pour être avec nos amis, pour être avec notre communauté. Et que ce soit une grande, une petite communauté, que ce soit le dimanche, que ce soit à la braise, que ce soit avec ta famille, n'importe quoi ce que tu vis, Dieu t'a créé pour être en communauté. C'est pour ça qu'on a le même Père que Jésus. Il ne dit pas c'est mon Père, moi j'ai un statut à part. Non, il dit c'est notre Père ensemble. Et c'est important de réaliser qu'il n'est pas seulement ton Père à toi personnellement, il est notre Père. Et ça veut dire, s'il est notre Père, ça veut dire qu'on est tous frères et sœurs. Et ça veut dire, ça nous fait nous mettre dans un état relationnel que voilà, c'est pas des étrangers là que j'ai devant moi aujourd'hui, c'est mes frères et mes sœurs. J'ai beau ne pas connaître certaines, peut-être même pas vous avoir rencontré, vous êtes mon frère et ma sœur et on est là pour s'aimer les uns les autres. Amen. On n'est pas juste des étrangers. On est frères et sœurs, c'est notre Père. Et puis bien sûr, ce mot Père, comment ne pas s'arrêter à nouveau dessus. On parle souvent de ça ici. On a vécu cette magnifique conférence à Valence récemment. Mais on a tellement besoin de réaliser toujours, encore et encore, à chaque instant, combien Dieu est un bon Père. Sans ça, franchement, les amis, quand on ne réalise pas ça, mais ce qu'on vit, notre foi, c'est tellement... on manque tellement de quelque chose d'essentiel. Et bien sûr, c'est un défi parce que quand on veut s'adresser à Dieu comme notre Père, ben bien souvent ce qui se passe, c'est que ce mot Père est associé à nos pères terrestres. Et pour être Père depuis quelques années maintenant, je sais combien c'est un défi d'être papa. C'est marrant de prêcher ça devant ces filles qui grandissent de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est un défi d'être papa. Mais on a beau faire du mieux qu'on peut en tant que Père terrestre, on a tous ce Père qui n'est pas comme nos pères terrestres, qui est parfait. Bien sûr, il nous a donné ces pères terrestres qui sont des gens qu'il a prévus pour nous, mais lui, il est encore dans une dimension au-dessus. Lui, il est sans faille. Son amour est sans faille. Et si tu as du mal à concevoir Dieu comme un bon père, relis cette histoire de Luc 15, relis cette histoire du fils prodigue, où tu vois ce père qui guette son fils prodigue, qui a les entrailles vraiment après, dans l'attente de revoir son fils. Et quand il le voit arriver au loin, son fils, après avoir eu suffisamment de galères, décide de retourner vers son père. Il a cette démonstration d'affection exubérante, où il court, où il le serre, où il l'embrasse, où il fait une fête pour lui. Parce qu'il ne peut pas se retenir, son amour, c'est un amour qu'il déverse. Ce n'est pas un amour qu'il donne au compte-gouttes, c'est un amour qu'il déverse. Et Dieu encore veut te dire ce matin qu'il t'aime et il veut encore déverser son amour dans ta vie. Et il a encore des choses merveilleuses qu'il veut que tu expérimentes. Mais la chose la plus merveilleuse à expérimenter dans notre vie, c'est vraiment l'amour de ce bon Père. Amen. Amen. Et s'il y a des choses dans ton cœur vraiment qui sont... dur à vivre, que ce soit par rapport à ton passé familial ou que ce soit ton quotidien aujourd'hui, vraiment va voir un frère, une sœur, prie, demande au Père encore de te révéler son amour et ça changera tout. Amen. Jésus est venu pour que nous soyons adoptés par le Père. Galates 4:4. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme, placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Et puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Amen. Et si tu sens que tu n'as pas cet héritage des biens promis de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, n'en reste pas là. Bats-toi, j'ai envie de dire. Bats-toi pour recevoir cette révélation de l'amour du Père. Tu es né pour ça. Tu es né pour ça. Dieu t'a choisi pour ça. Amen. Que ton règne, que ta volonté soit faite. Et ça nous parle vraiment de la repentance, parce que ben oui, comment on grandit en tant qu'humain avec notre nature humaine, on est tourné vers nous-mêmes. Mais Jésus, quand il nous enseigne à prier, il nous enseigne à dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et ça, c'est important de pouvoir en ce début d'année dire ben Seigneur, moi j'ai plein de projets. J'ai plein de choses que j'aurais envie de vivre, envie de faire, mais c'est ta volonté que je veux faire. Et Jésus, non seulement il a enseigné à le prier, mais il l'a démontré. Ou quand il était dans le jardin de Gethsémané, vous savez, on cite souvent ce verset de la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Mais la volonté de Dieu, elle n'est pas toujours agréable, ou du moins pas toujours agréable dans l'instant. Et Jésus nous a démontré ça dans le jardin de Gethsémané, quand dans Luc 22, on voit qu'il dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que pas ma volonté ne se fasse, mais la tienne. » Et Jésus avait des grumeaux de sang tellement il était dans l'angoisse, dans l'anxiété de ce qu'il allait vivre. Et dans ce moment-là, la volonté de Dieu n'avait pas l'air vraiment agréable. Mais il savait que c'était le bon chemin. Et oui, ce n'était pas agréable dans son corps, mais il avait en vue, la Bible nous dit qu'il avait en vue ce qui allait venir après. Il avait en vue le ciel, il avait en vue le fait que nous, tous ses enfants, nous puissions être réunis avec lui. Amen. Alors ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, qu'on puisse discerner sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Et j'en ai oublié un petit au passage, mais que j'avais vraiment à cœur de rappeler aussi, que ton nom soit sanctifié. Ce petit bout de verset, que ton nom soit sanctifié. Parce que, en fait, on ne rigole pas avec Dieu. Jésus est notre frère, Dieu est notre père, mais ce n'est pas non plus notre petit copain. Ce n'est pas un être avec qui qu'on dédaigne comme ça et qu'on maltraite, un jour on dit oui, un jour on dit non. Non, Dieu est saint. Et que ton nom soit sanctifié. En fait, le nom de Dieu, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et c'est un grand débat qu'on a théologique parfois par rapport au chant qu'on chante. Mais vous savez que les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Et il est inscrit, il n'est pas d'accord. D'ailleurs, il y a d'autres noms, en fait, il y a plein d'autres noms dans la Bible pour prononcer ce mot-là. Mais les Juifs, et je ne le prononce pas, les Juifs ne le prononcent pas. Les Juifs ne le prononcent pas. Pourquoi ? Parce que même son nom est tellement saint qu'on a beau le connaître, on ne le dit pas avec nos lèvres. Parce qu'il y a ce respect. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit rendu saint. Parce que c'est ça qui est beau, c'est que Dieu n'est pas comme nous. Dieu est autre, il est au-dessus, il est parfait, il a vraiment cette nature. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Jésus, il nous a réunis avec lui. En Jésus, il nous a fait participer à sa nature divine. Amen. Mais c'est important de réaliser que son nom est saint et que son nom doit être traité différemment que les autres noms. Par contre, il nous a donné le nom de Jésus, le nom de son fils Jésus, par lequel nous pouvons prier. Amen. Et honorer, et c'est vrai que pour les Juifs, le fait d'honorer le nom de Dieu, c'est honorer Dieu lui-même. Amen. Et vous savez que, il y avait c'est qu'une fois par an que le grand prêtre sacrificateur pouvait dans le temple, dans le tabernacle, avoir accès au lieu très saint, parce qu'il y avait vraiment cette sainteté. Il y avait vraiment cette sainteté. Il avait une corde attachée à lui et des clochettes pour qu'au cas où il ne ressorte pas, au cas où il soit tombé raide mort dans le lieu très saint, les autres prêtres puissent le tirer et le faire sortir du tabernacle ou du temple. Donc, comme quoi vraiment il y a cette sainteté de Dieu. Mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, vous savez, quand Jésus est mort et ressuscité, quand il est mort, en fait, le voile dans le temple a été déchiré. Et ce lieu de sa présence, il n'y a plus cette séparation. Ça veut dire que nous avons accès au lieu très saint. Nous avons accès au lieu très saint, nous avons accès à sa présence à chaque instant. Mais il y a quand même ce respect et cette crainte de Dieu à avoir, cette crainte de Dieu. Et tant mieux, parce que si Dieu est comme moi, dans le sens où il m'a créé à son image, mais si Dieu est d'exacte même nature que moi, mais comment peut-il me sauver ? C'est parce qu'il est autre, c'est parce qu'il est au-dessus qu'il peut me sauver et m'attirer à lui. Amen ? Amen. Waouh. Donc, c'est important pour nous de réaliser ces choses et qu'on puisse cette année dire Seigneur, oui, tu es saint et je veux faire ta volonté. Ensuite, il dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et ça, pareil, c'est tellement important, les amis. On parle de faire des disciples, c'est vraiment notre cœur, et on aimerait tellement progresser encore dans ça. Donc nous, d'être des disciples de Dieu, des disciples qui donnent envie aux autres autour de nous de devenir disciples, et vraiment prier chaque jour, ça fait partie de la vie du disciple. Et ça, c'est tellement important de réaliser que des fois, vous savez, on dit je vais jeûner, je vais prier, je vais passer, mais comme si c'est bon, je l'ai fait une bonne fois pendant 2-3 jours, je suis tranquille. Non, encore une fois, la prière, c'est vraiment quelque chose du quotidien. et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Jésus est le pain de ce jour. Jésus est le pain de vie. Et comme nous l'a dit si bien Laurence, chaque jour on a besoin de cette communion avec Jésus. On ne peut pas se satisfaire de la manne. Vous savez, Dieu a envoyé la manne, le pain, ces miettes de pain dans le désert. On ne peut pas se satisfaire de la manne d'hier. Dieu a beau avoir fait plein de choses dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Tu as besoin aujourd'hui de ce pain de ce jour. Tu as besoin d'une manne fraîche pour aujourd'hui. Donc vraiment, les amis, je vous encourage chaque jour à prendre un temps, d'être intentionnel, de prendre un temps à part avec Dieu. Amen. Amen. Entretenir une communion perpétuelle avec le Seigneur Jésus est la première chose qui donne la santé à notre âme, exalte sa gloire et nous rend utile. C'est Charles Spurgeon qui a écrit ça. Et donc voilà, sur cette priorité de prier chaque jour. Et puis vous savez, Dieu nous demande de prier dans Matthieu 10, Luc 10, Dieu nous demande de prier pour des ouvriers dans la moisson. D'avoir des nouveaux ouvriers de la moisson. Et quand on parle de multiplier, de faire des disciples, c'est ça, c'est de trouver des nouvelles personnes qui, à leur tour, vont faire des disciples. Mais combien nous savons aussi que des fois, c'est nous-mêmes qui sommes la réponse à nos prières. Et peut-être que Dieu, cette année, te demande d'être vraiment un ouvrier dans sa moisson. Et ça veut pas dire, ça veut dire qu'il va te conduire dans ce que ça veut dire pour toi. Mais Dieu a forcément mis autour de toi des gens à qui sont cette moisson, en fait, et dans laquelle Dieu t'envoie. Amen. Et c'est encore le même Charles Spurgeon qui a dit « Chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. » Je la répète, chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. Laissons ça rentrer en nous. En fait, c'est tellement bon, tellement profond. On a chrétien, on explique aux filles, oui, tu peux être croyant et aller en enfer. Le diable est croyant d'ailleurs. Donc ça ne suffit pas d'être quoi ? Ça ne suffit pas de croire en Dieu. Être disciple, c'est vraiment le suivre et chaque jour aller dans cette moisson qu'il a mis devant nous. Chaque jour être intentionnel. Chaque jour briller. C'était beau. Je ne sais plus si je l'ai raconté ici, mais c'était tellement beau. Juste avant la conférence, on était dans un restaurant le soir à Valence et la serveuse qui venait nous servir, elle était au bout d'un moment presque, elle arrêtait votre discussion. En fait, on était une table de quelques personnes. Elle disait mais c'est fou, vous avez tous tellement l'air joyeux, tellement vous êtes tous tellement souriants et on sent tellement d'amour entre vous, mais waouh, elle était bouleversée, quoi, et à tel point qu'elle interrompait un peu la conversation comme ça, et c'était beau, on a pu l'aimer et puis prier pour elle, etc. Elle était vraiment touchée. Mais comme quoi, c'est beau de voir que quand on est dans cette communion avec Dieu, et quand on est aussi en communion les uns avec les autres, quand on se comporte comme ses disciples, vraiment, eh bien, ça touche les gens, parce que le monde... On en parlait ce matin, on faisait un jogging ensemble avec Olivier, on réalisait que le monde autour de nous, les gens, on se rend pas compte, c'est comme si on était habitué à la présence de Dieu, à sa bonté pour nous. Mais en fait, les gens autour de nous, ils crèvent la dalle, les amis. Ils ont tellement soif, tellement faim, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin de pas être seuls. Et en fait, c'est toi que Dieu envoie pour ces gens-là que Dieu... Alors, vis ta vie de disciple à fond, vis ta vie de prière à fond, et naturellement, on va briller. Et plus on brille, plus ça va donner envie à d'autres. Je pense que faire des disciples, oui, ça demande une intentionnalité. Des fois, on fait des choses de manière un peu plus intentionnelle. Mais je pense que c'est aussi, des fois, dans notre piété personnelle avec Dieu, va faire que des fois, ça va aussi se passer tout seul et que c'est les gens qui vont venir vers nous pour nous demander. Vraiment, les amis, soyons cette année des disciples c'est Julien qui disait ça à la conférence, ne soyons pas des disciples qui ont l'air d'avoir été baptisés dans le jus de citron. Soyons des disciples qui ont été baptisés dans l'amour du Père. Amen. Et là, on va vraiment donner envie aux autres de le connaître. Et puis ensuite, il dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et c'est vraiment, j'ai pas le temps là de rentrer dans tous les détails de tout ça, mais c'est tellement profond la manière dont Jésus, en fait, il utilise cette prière vraiment pour amener des enseignements tellement extraordinaires. Et sur ce pardon, de voir comme le Dieu, le lien qui est fait entre le Père qui nous pardonne comme nous, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je réfléchissais, je dis, mais c'est bizarre, c'est comme si Dieu faisait comme moi je fais. C'est comme si Dieu se calquait sur ce que moi je fais. Mais en fait, je réalisais que alors que moi, je choisis de pardonner, alors que moi, je choisis de demander pardon dans ce que j'ai besoin de faire, eh bien, c'est comme si ça ouvrait mon cœur, qu'il était possible là, à ce moment-là, de recevoir le pardon de Dieu. Et on a besoin d'être pareil dans cette attitude perpétuelle de dire, ben voilà, de pardon, de demander pardon, mais aussi de pardonner. Et là, notre cœur là, et c'est comme si, vous savez, le pardon, on dit souvent, c'est comme une clé, c'est toi-même qui est enfermé dans la cellule et c'est toi-même qui a la clé. Utiliser vraiment le pardon, ça permet de sortir de la prison dans laquelle on est. Et le fait de faire ça, ben voilà, on sort de la prison, là notre cœur est touché, notre cœur est ouvert à recevoir le pardon de Dieu. Et vous savez, je l'ai vécu, moi j'ai, il y a longtemps maintenant, mais j'ai vécu des choses vraiment dures et j'ai fait des choses vraiment mal, j'ai fait vraiment du mal à certaines personnes à une certaine époque et merci Seigneur, j'ai été entouré à l'époque d'amis extraordinaires comme Olivier qui est là, comme d'autres que certains connaissent aussi et comme mes parents aussi ça m'a permis du coup de demander vraiment pardon de tout mon cœur pour ce que j'avais fait ça m'a permis aussi de demander pardon à Dieu, mais bien souvent, parce que c'était mon expérience à l'époque, la personne la plus dure à pardonner, c'est soi-même. Qu'est-ce que c'est dur des fois de se pardonner à soi-même. Et j'ai réalisé que alors que Dieu nous permettait de nous pardonner à nous-mêmes, eh bien là on pouvait réaliser l'ampleur de son pardon. Et ça marche vraiment dans les deux sens. Et de recevoir le pardon du Père, c'est aussi ça qui nous permet de nous pardonner nous-mêmes complètement. Amen. Donc vraiment vivons ce pardon. Ne laisse pas, s'il y a quelqu'un dans ta vie aujourd'hui, s'il y a quelqu'un où tu sens que tu as besoin soit de pardonner, soit de demander pardon, fais-le. Je sais que c'est quelque chose d'évident pour nous qui sommes chrétiens, mais des fois c'est super sur le papier jusqu'au moment où on a besoin de pardonner quelqu'un. Et là c'est tout de suite autre chose. Donc voilà, et Dieu nous aide à faire ça. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et je sais que si tu es dans cette pièce, tu as des tentations. Ah, d'un coup, on entend les mouches voler. Je sais que si tu es dans cette pièce, ben oui, comme tu respires, comme tu es un être humain, tu as des tentations. Et je trouve ça tellement puissant de réaliser que Jésus lui-même a été tenté en tout point sans commettre de péché. Et pourtant, le diable n'y est pas allé de main morte. Il lui a vraiment fait miroiter des choses et tout, vous savez, juste après son baptême. Mais vraiment, c'est tellement... la tentation, c'est quelque chose qui est là au quotidien. Et si tu es là, encore une fois, et qu'on soit jeune, des fois, on parle plus des jeunes quand on parle de tentation, de choses. Non, mais ce n'est pas vrai. À tout âge, il y a des tentations de toutes sortes différentes. Et c'est vrai que la tentation quand on succombe à cette tentation et qu'on commet le péché, et ben c'est souvent de se cacher, c'est souvent de se cacher un peu comme Adam et Ève, hein, on n'a rien inventé dans le jardin d'Éden, quand ils ont mangé de l'arbre dont ils n'avaient pas le droit de manger, et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Et Dieu a même dû leur demander où ils étaient pour vous dire à quel point ils ont voulu se cacher. Alors qu'en fait, qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce passage? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Plus tu te caches, plus tu essayes de fuir, plus la tentation va avoir, va te tenir. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'approches de son trône de grâce, plus tu réalises sa grâce manifestée en Jésus pour toi, plus tu peux accepter son pardon, plus vite la tentation partira. Alors si tu es tenté avec des choses, Encore une fois, les amis, soyons vrais. Ça sert à ça, l'Église aussi. Ça sert à ça, les amis chrétiens. Si tu galères, si t'es pris dans des tentations, si t'es pris dans des péchés dont tu n'arrives pas à te sortir, encore une fois, on le dit souvent, mais parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. L'ennemi veut te faire croire que t'es la seule personne à vivre ça. En fait, vous savez quoi, les amis, on passe tous plus ou moins par les mêmes choses. Et très souvent, on se dit, ah ben non, si seulement il savait ce que je fais, si seulement il savait par quelle tentation je passe, il me rejetterait. Au contraire, les amis, quand on est vrai les uns avec les autres, hein, c'est dans 1 Jean, quand on est dans la lumière, là, on peut être touché par Dieu. Là, on peut être en communion les uns avec les autres. Et là, le sang de Jésus peut nous laver. Donc, les amis, cette année en 2025, soyons dans la lumière les uns avec les autres. Avouons-nous nos tentations. Avouons-nous nos péchés. Mais tu crois quoi ? Dieu le sait, Dieu le voit, Dieu est au courant de tout. Tu crois te cacher de lui, mais non. Et va voir un frère, va voir une sœur de confiance. Je dis pas, parle-en sur Instagram ou je sais plus, il y en a plein de réseaux sociaux maintenant, mais c'est pas ça du tout. Mais c'est, va parler à quelqu'un de confiance. Et là, Dieu va pouvoir agir et tu vas pouvoir être libre. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et j'aime comme cette prière nous ramène toujours à lever les yeux vers Dieu. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et c'est vraiment ce retour à cette louange. Et combien c'est important que notre vie soit une vie de louange. Parce que plus on regarde à l'intérieur de nous, plus on va. Il y a deux sortes d'introspection en fait. Il y a l'introspection où intentionnellement tu vas regarder ce qu'il y a dans ton cœur, mais pour l'amener à Dieu. Mais après il y a l'introspection qui nous fait ruminer. Et là c'est la chute quoi. Là c'est les pensées qui s'y mènent et on est voilà quoi. Si on regarde, Dieu nous dit de regarder à lui, de le contempler lui. Et la louange, c'est ça, c'est que alors qu'on regarde à lui, eh bien, il nous transforme de gloire en gloire. Et là, on peut être touché, là, on peut être transformé. C'est le secours vient toujours du haut, quoi. Si tu tombes dans un puits, si tu tombes dans la miséricorde, c'est ça, c'est que Dieu, t'es dans la misère, il t'envoie une corde. Et le secours vient toujours du haut. Je lève les yeux vers les montagnes. J'aime tellement les montagnes. Et qu'est-ce que j'aime à la montagne ? Quand je regarde les montagnes, je dis waouh ! Tout de suite, non mais c'est vrai les amis, vous savez que j'aime beaucoup la montagne, mais quand on lève les yeux vers les montagnes, on se sent d'un coup, souvent on le dit avec Emmanuel, on va se balader dans la nature, et quand on est dans la nature, en ce moment il y a de la neige de partout, c'est merveilleux, quand tu vas te balader dans la nature, tu vois cette création, tu vois ces montagnes, et ben déjà ça remet beaucoup nos problèmes en perspective, et ça vraiment ça nous aide à penser à Dieu, à penser que lui est au-dessus de toute chose. Et quand on monte dans la montagne, vous savez, je me rappelle une fois, on était aux Trois Becs, je crois. Quand tu montes aux Trois Becs, tu vois Montélimar au loin, tu sais, très très loin, très petit. Et c'est comme si la taille des problèmes que tu as là, dans ta ville, là où tu vis, ben, est toute petite. Et tu vois l'immensité autour de toi, tu vois toute la chaîne des Alpes, tu vois tout le massif central, et tu peux dire, mais waouh, mais que Dieu est grand. Et si Dieu est si grand que ça, il va s'occuper de moi, il va s'occuper de mes problèmes et ceux de mes amis. Amen. Amen. Il faut qu'on s'organise une sortie luge tous ensemble à la montagne, ça serait bien. Allez. Amen. Je vous propose de finir en louant le Seigneur. Je ne sais pas si l'équipe est de louange est encore là. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant « Tu es fidèle »